Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce deuxième hors-série, je reçois Émilie, la créatrice du podcast Belle-Mère. Émilie est elle-même belle-mère depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les enfants de son compagnon Roland ont 15 ans pour Clara et 10 ans pour Joseph. Depuis 2 ans, Angèle est venue agrandir la famille et a fait d'Émilie une maman comblée. Dans cet épisode, on aborde avec elle la création de cette famille recomposée et l'arrivée d'Angèle. Elle nous parle de ses origines maliennes et de comment cela l'a guidée pour son projet de naissance et sa maternité. Elle nous raconte les difficultés de l'éducation d'un enfant dans une famille dont tous les enfants n'ont pas les mêmes habitudes, mais aussi la richesse que cela peut être. Enfin, elle détaille les comptes Instagram qu'elle aime regarder, en particulier celui de S'éveiller simplement pour les activités et de Little Bunbao, compte pépite pour la langue des signes avec les bébés et le maternage proximal, ainsi que les podcasts qu'elle aime écouter, et en particulier La Matrescence et Blistory, de référence dans les podcasts de la parentalité. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Émilie.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer à ce deuxième hors-série du podcast.
Merci de me recevoir.
Avant de commencer avec toutes mes questions sur ton rôle de maman, est-ce que tu peux me présenter qui tu es et de qui est composée ta famille ?
Alors, je suis Émilie, j'ai 39 ans. Je suis avec un homme qui a 2 enfants déjà, que j'ai rencontré qui avait déjà 2 enfants, qui ont maintenant 15 et 10 ans, et on a eu ensemble une petite fille qui a 2 ans.
Donc oui, il y a quand même pas mal d'écart entre les enfants.
Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, vraiment beaucoup.
Et est-ce que d'avoir été belle-mère avant d'être mère, ça t'a fait te poser des questions sur la maternité plus tôt ?
Je crois pas, je pense que j'ai toujours été assez convaincue que je serais maman, en ayant bien en tête que rien ne coulait de source non plus. Mais en tout cas, je me suis toujours imaginée mère, alors que j'avais pas d'appétence. Enfin, j'aime bien les gosses, mais pas non plus. Raisonnablement, quoi. Et ouais. En revanche, être belle-mère, je trouve que ça. Ça, enfin, j'ai aussi été grande. Je suis sœur aussi de trois jeunes gens qui sont formidables, mais avec qui j'ai entre 18 et 23 ans d'écart. Donc, j'ai l'habitude de m'occuper d'enfants plus jeunes, enfin, beaucoup plus jeunes que moi, et de les aimer très fort. Donc, du coup, être belle-mère, c'était plus dans la continuité de mon rôle de sœur, finalement, que dans mon rôle de maman. Enfin, en tout cas, j'y vois plus de points communs, parce qu'il y a un côté un petit peu tutorat. Sans le côté... Enfin, je m'inquiète pas du tout pour mes sœurs et mon frère, et je m'inquiète pas du tout pour mon beau-fils et ma belle-fille. L'inquiétude, c'est un truc que j'ai découvert avec la maternité.
Ouais. Ils avaient quel âge, les enfants de ton compagnon, quand tu les as rencontrés ?
Ils avaient 10 et 5 ans, et ça s'est super bien passé. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais pas la femme juste après la maman. Enfin, mon mec avait une autre amie avant moi. Je trouve que c'est moins dur quand même comme ça, parce qu'on est moins celle qui a pu séparer, ou en tout cas qui les oblige à faire le deuil de la relation de leurs parents. Et non, ça s'est super bien passé, j'étais super bien accueillie, même si mon beau-fils, dans les premières semaines où j'ai été officiellement l'amoureuse de papa, il m'avait dit « du coup c'est bête, t'auras pas d'enfant vu que je suis le petit dernier
». Ok.
Oups.
Et comment ils ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous alliez avoir un enfant ?
Carla, qui avait 12-13 ans à l'époque, était catastrophée, parce qu'elle avait déjà raisonnablement bien vécu l'arrivée de son petit frère, qui avait précipité la fin de l'histoire de ses parents. Aussi, donc on peut la comprendre. Ouais. Et Joseph, en revanche, était ultra content. Parce qu'une fois qu'il m'avait fait cette petite phrase, après, un ou deux ans après, il nous tannait le cuir pour qu'on ait un enfant ensuite.
D'accord.
Donc, il était passé un petit peu de l'autre côté de la barrière. Mais ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'Angèle est née, ça s'est complètement inversé. Carla a assez mal... Enfin, elle n'avait pas forcément envie d'avoir une nouvelle petite sœur ou un nouveau petit frère. Et à la fois, elle était très curieuse de la grossesse. Elle me touchait beaucoup le ventre. Elle me demandait si j'allais bien. Enfin, elle était trop chouquette, prévenante. Et à la fois, elle avait des crises d'angoisse parce que encore un nouvel enfant. J'imagine que ça réveillait aussi ses craintes de petite fille quand ses parents se sont séparés, tout ça. Et en revanche, Joseph s'en foutait un peu de la grossesse et avait hâte de pouvoir jouer au Lego avec sa petite sœur. Sauf que quand Angèle est née, elle jouait pas au Lego.
C'est ça, ça joue pas au Lego tout de suite.
Voilà, donc du coup, il s'est rendu compte que c'était pas si fun, qu'un bébé, ça pleurait, qu'on jouait pas, que ça prenait vachement de temps à ses parents. Donc lui a très mal vécu l'arrivée d'Angèle, alors que Carla, en revanche, a été une super alliée, enfin, il est toujours d'ailleurs, dans tout ça, dans toute cette aventure à trois enfants, du coup.
D'accord. Est-ce que tu t'étais préparée à être enceinte ? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais réfléchi, sur lequel tu t'étais renseignée ? Ou est-ce que finalement, c'est venu soit par surprise, soit comme ça, parce que vous aviez décidé, mais sans spécialement y réfléchir ?
Alors moi, je fais pas de plan de carrière, je fais pas de plan de vie. En revanche, j'écoute beaucoup les gens, mon entourage. J'ai des copines et des amis. Et j'ai eu ma fille à 36 ans, donc beaucoup d'entre elles avaient déjà eu des enfants.
D'accord.
Donc, je ne me suis pas préparée à proprement parler, mais en revanche, je me suis rendu compte qu'en écoutant toutes mes potes et leur expérience, j'avais attrapé des choses qui m'avaient fabriqué mes certitudes et mes envies, en tout cas, pour ma grossesse, pour mon accouchement et pour la suite aussi. Donc, et puis aussi, je pense que c'est important pour moi, et je l'ai découvert enceinte. Ma mère est bretonne, mon père est de Bamako, du Mali. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite enceinte que j'avais vachement, que je me sentais vachement plus africaine, en tout cas, dans ma manière d'aborder la grossesse et la maternité, dans le sens où j'avais pas du tout envie de, enfin c'est un peu cliché dit comme ça, mais j'avais envie de quelque chose de très naturel et de très peu médicalisé. J'étais très vite sûre que j'allais allaiter, enfin j'étais très vite sûre que j'allais être sur du portage, sur du maternage proximal, sans mettre les mots. Mais très vite, j'ai demandé à ma belle-mère de me filer un pagne pour m'apprendre à le mettre ma fille dans le dos. Enfin, j'avais très vite ça, en fait, de manière assez naturelle et organique, mais aussi, encore une fois, en attrapant des choses par-ci, par-là, avec mes copines.
Ouais, du coup, finalement, ce côté-là, il t'a beaucoup servi et il t'a beaucoup guidée dans ta grossesse.
Carrément, carrément. Et puis, du coup, j'ai choisi des gens qui avaient un petit peu cette approche-là aussi pour m'accompagner. J'ai été suivie par une sage-femme complètement algérienne d'ailleurs, qui avait complètement cette approche de la naissance très, très la femme est forte, elle est sacrée, elle est faite pour ça, et toi aussi t'es faite pour ça, et tu vas cartonner, ça va être génial, enfin, très, tu sais, empouvoirant, enfin, qui te donne vachement de billes en disant, mais en fait, même si c'est compliqué, ça va aller, t'es faite pour ça, et n'hésite pas à t'accompagner, enfin, vraiment, côté mise en confiance. Enfin ouais, c'est la première fois que tu le fais et à la fois ton corps saura faire. Enfin, et ça, c'était vachement. Enfin, du coup, ouais, j'ai choisi cette sage-femme-là et j'ai été suivie aussi par une ostéo qui était vraiment dans cette optique-là. Ce qui fait que, en fait, j'étais en pleine confiance et aussi j'avais très envie d'être active et de ne pas subir, en fait.
Ça, c'est d'accord, du coup, tu t'es préparée en conséquence.
Ouais, exactement. Sachant que ne pas subir, ça veut juste. Enfin, du coup, ça nécessitait de se renseigner un petit peu, de préparer. Mm-hmm. Donc, j'avais fait un projet de naissance qui n'a pas du tout été suivi, mais au moins, je savais, tu vois. Enfin, j'avais mis en place j'étais préparée et j'étais préparée à que ça ne se passe pas comme je l'avais préparé aussi, tu vois.
D'accord, tu avais tout préparé. Ce que j'ai préparé si ça ne se passe pas comme il faut.
Ouais, j'acceptais que ce ne soit pas comme je l'avais préparé, mais je l'acceptais d'autant mieux que j'avais des vagues idées, des options, tu vois. Enfin, j'avais conscience qu'il y avait une chance sur quatre que l'accouchement finisse en césarienne, parce que ça arrive quand même souvent. J'avais que c'était pas mon choix 1, mais qu'en tout cas, c'était OK si ça arrivait. J'avais conscience que au départ, j'avais un peu ce fantasme d'être sans péridurale, et puis pour plein de raisons, ça n'a pas été possible. Mais j'avais conscience que c'était OK s'il y avait une péridurale et que ça gâcherait pas mon moment. Enfin, tu vois, en fait, j'avais vraiment décidé que ce serait un joli moment. En revanche, ça, je l'avais un peu décidé. Du coup, j'avais surbriefé mon mec en mode support.
Comment, du coup, t'as impliqué ton conjoint dans ce rôle-là? Et est-ce que le fait que lui, il ait déjà été papa et que donc il ait déjà vécu un accouchement avec une autre femme, enfin même deux accouchements avec une autre femme, ça a changé les choses pour toi et pour lui ou pas du tout?
Moi, ça a changé pour. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas eu d'enfant avec d'autres gens qui n'avaient pas eu d'enfant, remarque. Donc, j'ai pas de point de comparaison. Mais je sais que pour moi, je voulais pas que. Enfin, je voulais que ce soit unique pour lui aussi, même si ça l'était pas. Enfin. Mm-hmm. Donc, et en plus, moi, j'avais vachement envie de l'impliquer et il me semble que c'était moins le cas pour ses deux enfants précédents parce que leur mère était. Un peu, était plus jeune que moi déjà quand elle a eu ses enfants. Donc, du coup, je pressens que quand on est plus jeune, c'est plus. Enfin, en tout cas, moi, plus jeune, c'est sûr que je ne savais pas ce que je voulais dans la vie. Donc, en tout cas, je pense qu'elle était moins. Elle avait moins ce besoin d'être active et d'être partie prenante dans les décisions de l'accouchement. Donc, il a suivi mon mouvement. Ouais. Moi, je l'impliquais vachement. Le projet de naissance, je lui ai lu, j'en ai parlé. Il y avait ma sage-femme qui m'avait dit, Abiba m'avait dit, bah écoute, prépare-toi une playlist pour, parce que ça arrive rarement en 2 heures comme dans les films, hein, finalement, un bébé, un peu de temps à la mater avant. Donc, je lui avais demandé de me préparer une playlist, je lui ai fait lire encore une fois le projet d'accouchement que j'avais, on en avait parlé ensemble, je lui avais demandé, par exemple, sur l'épisio, de faire une levée de drapeau si on me la proposait et que j'étais pas en état de la refuser. Enfin, tu vois, des trucs comme ça où je l'avais impliqué, je pense qu'il l'était pas avant. Le truc top, c'est que la Camille, donc la mère des enfants, avait allaité ses deux enfants. Donc pour lui, c'était assez naturel que j'allaite aussi, parce que je crois savoir que c'est pas forcément simple pour tous les papas.
Ouais.
L'allaitement. Donc moi, je l'ai impliqué comme ça. Après, il était plus suiveur qu'initiateur.
Il avait assisté au cours de préparation à la naissance?
Alors, j'en ai pas tant eu que ça. Déjà, parce que moi, où j'étais à la PMI, c'était le mardi de 13h à 14h. Enfin, c'est des moments...
Pas hyper pratique.
Pas hyper pratique, exactement. En revanche, j'en avais fait un ou deux avec la sage-femme en cabinet, du coup, auquel il était venu. Mais non, pour le coup, pas tant. Et puis en plus, moi, c'est hyper bizarre, mais j'ai pas eu trop envie ni besoin de faire ces cours-là. Enfin, j'y suis allée parce que je suis bonne élève, mais ça m'a pas... je préférais mes one-to-one avec la sage-femme tous les mois, qui du coup me donnait des trucs, qui me faisait parler, puis... Et ça me suffisait. Après, j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement qui ne sont pas des cours de préparation à l'accouchement, mais tu vois, avec l'ostéo qui m'avait préparé le bassin aussi. Donc ça, pour le coup, mon mec n'était pas là.
Ouais.
Mais en tout cas, en me préparant le bassin, elle m'avait vachement préparé aussi aux sensations que j'allais avoir en accouchant. J'avais fait du shiatsu aussi. Je m'avais un peu préparée à ça, mais les cours de la PMI, ça m'est un peu passé au-dessus. J'avais un peu l'impression de retourner à l'école. Alors ça, c'est des seins, ça, c'est le canal de Nianian. La tête, elle passe par là. Enfin, ça m'a moins parlé, ça. Et la sage-femme m'avait donné un super bon conseil que j'ai fait. Elle m'avait demandé de regarder des documentaires animaliers sur l'accouchement. Et je trouve que c'est un bon conseil. Parce qu'effectivement, finalement, et en le vivant, même avec une péridurale et 12 monitoring et machin, c'est vrai que en accouchant, je trouve que tu te relies à ta part animale de manière assez évidente. Et voir des documentaires animaliers, tu sais, ça rassure sur le fait que déjà, c'est naturel et qu'en fait, ton corps saura faire. Et je trouve que c'était une bonne prépa, ça aussi. Je ne sais pas si c'est un bon tips, mais...
Bah écoute, ça se tente en tout cas.
Oui, voilà, ça prend 20 minutes. Il y en a plein sur YouTube. C'est gratuit. C'est facile.
C'est facile à faire.
Voilà.
Et est-ce que tu as eu, pendant ta grossesse, des moments où c'était plus compliqué ? Est-ce que tu as eu des grossesses plutôt facile ou plutôt compliqué, et est-ce qu'il y a des choses pendant ta grossesse où tu t'es dit mais pourquoi on m'a jamais dit que j'allais avoir ça quand je serai enceinte?
Alors j'ai une grossesse plutôt easy, sauf un vrai truc, c'est que en fait à la deuxième ou troisième écho, enfin au 6-7e mois, on a découvert que ma fille avait une particularité au cerveau. Et du coup, tout de suite, c'est branle-bas de combat. On fait 12 000 examens. Donc, c'était un mois assez stressant pendant lesquels on a fait plein d'examens parce que potentiellement, cette particularité pouvait provoquer plein de problèmes sévères ensuite.
D'accord.
Au bébé et ensuite à l'humain quoi, enfin, qui restait. Donc ça a été hyper stressant parce que du coup, j'ai dû faire une amniosynthèse à 7 mois. Mais en fait, il n'y a pas trop de risque d'accouchement prématuré, mais bon, ça reste quand même un acte
matériel. C'est toujours un peu stressant, ouais.
Ouais, c'est pas très agréable. Déjà, c'est stressant, et puis c'est pas très agréable à vivre physiquement. Donc, il y a eu ça, et puis l'attente des résultats, du cariotype, tout ça, qui n'étaient quand même pas les moments les plus détentes de ma vie. Et puis du coup, c'était assez stressant à vivre, mais alors après, du coup, l'avantage... Je ne sais pas si c'est un avantage, mais je me suis sentie du coup dès 7 mois, enfin jusque-là, j'ai eu ma grossesse de manière un peu dépersonnalisée. Genre, il y a quelqu'un qui est dans mon ventre, c'est cool, c'est trop bien, j'aime bien quand ça bouge, mais je ne me sentais pas maman. Mais à partir du moment où la vie de mon bébé était à risque, là, pour le coup, je me suis sentie maman très, très fort, très, très fort. Et j'ai eu aucun, du coup, quand elle est née, enfin déjà, quand on a eu les résultats, que ça allait, gros soulagement. Et puis quand elle est née, j'ai pas du tout, c'était déjà ma fille, enfin il y a pas du tout eu ce temps de latence qu'on peut avoir je crois parfois, mm-hmm. où on regarde un peu son enfant comme un étranger. Pour le coup, c'était ma fille, j'étais ravie de la voir avec tout qui fonctionne.
Quelque part, tu l'avais déjà rencontrée ouais. À ce moment-là, quoi.
Bah, en tout cas, quand on avait fait un peu d'apto avec mon mec. Et du coup, c'est vrai que l'apto, ça m'avait vachement aidée aussi à ce moment-là pour communiquer avec elle, pour lui dire que j'étais stressée et tout quand j'étais enceinte. Enfin, du coup, ouais, exactement. J'ai l'impression de l'avoir rencontrée avant et du coup, de l'avoir aimée comme mon bébé, pas comme un fœtus, quoi, dès ses 7-8 mois. Alors qu'avant, c'était un peu un fœtus, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire.
D'accord. Oui, je vois bien. Et est-ce que tu t'étais préparée au postpartum, à ce qui arrive après, une fois que tu rentres de la maternité et que tu te retrouves chez toi avec ton nouvel enfant ?
Alors, j'avais conscience de ça. J'avais conscience que ça pouvait être compliqué, que ça pouvait même être une dépression, parce que j'ai eu des potes qui en ont eu. Après, je suis assez au jour le jour, donc je me suis dit « wait and see ». Mon mec avait pris ses 10 jours de congé paternité à la sortie de la mater, et puis j'ai eu la bonne idée de... Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai accouché un vendredi. Donc, du coup, il l'a pris à partir du lundi, donc il a été... pas mal de temps, vu qu'on est en France, quoi.
Oui, proportionnellement à ce qu'on peut avoir, c'était pas mal de temps.
On a optimisé en tout cas le congé paternité. Donc ça allait. En fait, je crois que j'étais tellement soulagée de mon bébé. Et puis je crois que du coup, comme j'ai allaité, alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, l'allaitement a été hyper facile. Tout s'est calé super facilement. Naturellement, à part la montée de lait qui m'a vachement surprise.
Dans quel sens ?
Parce que je pensais pas que j'allais avoir des seins en parpaing, en fait. Je m'y attendais pas du tout. Mais alors,
j'étais pas préparée.
Mais non, et puis en plus, on me disait mets de l'eau chaude, mais ça me faisait ultra mal. Enfin, j'arrivais pas à trouver de solution. Et puis j'avais l'impression qu'en fait, j'allais avoir des nichons comme ça tout le temps. Et ça m'a fait super peur. Et ça, je l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Et puis, en plus, elle était toute petite. Du coup, vu que c'était à une semaine. Non, même pas à 3-4 jours. Je ne sais plus quand ça arrive. Enfin, entre 4 jours et une semaine du bébé. Donc, elle n'était pas en mesure... Enfin, elle n'était pas assez pour pouvoir me soulager. Et, ah, et puis, c'était horrible. Et puis, en plus, tu sais, tu reviens en retour de couche. T'as, ta culotte de femme âgée, là.
Super sexy.
Ouais, voilà, j'avais ma téna. J'avais des seins super durs qui fuitaient.
le tableau complet.
Ouais, c'était trop d'infos, mais alors heureusement j'avais rendez-vous avec mon ostéo qui m'a dit c'est ok, c'est normal et qui m'a soulagée. Et à partir de là, c'était tout nickel. Mais sinon non, j'ai pas eu de coup de mou. Je me suis pas sentie pas à la hauteur. En revanche, ce qui a été super compliqué, c'est que pour le coup Joseph, mon beau-fils, ça a été super dur parce qu'effectivement il comprenait pas, enfin, il a mal vécu l'arrivée d'Angèle, en fait, finalement. Et du coup, c'était un peu compliqué de pas m'occuper exclusivement d'Angèle, d'essayer de rassurer un peu Joseph. Enfin, ça, c'était super dur à faire comme balance.
Ouais.
Et en plus, c'était super dur à faire parce que, enfin, moi, j'aimais de manière complètement inconditionnelle ma fille et j'avais du mal à comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde.
Ouais,
grosso modo, enfin, en fait, c'est juste, elle est merveilleuse, donc de fait, pourquoi
ça, on peut pas ne pas l'aimer, quoi.
Voilà, exactement, donc ça a été un peu compliqué, mais du coup, c'est pas des sentiments de, enfin, c'est pas ce que j'ai lu, en tout cas, de ce qui se passait en postpartum ou même en dépression postpartum, pour le coup, ouais.
Et quand ton conjoint a repris le boulot?
Ouais.
Ça a été?
Alors, la première journée, Angèle avait à chialer tout le temps. Mais genre,
ouais.
Et j'étais genre, pardon, enfin, qui es-tu en fait, c'est pas ce que tu fais. Donc, j'avais appelé Abiba, la sage-femme, qui m'a dit, ah oui, mais c'est normal, elle avait pas, enfin, est-ce que tu lui as expliqué, est-ce que vous lui avez expliqué que son père partait? Ah bah non, ah bah d'accord, bah du coup, bah essaye de le faire. Et c'est vrai que du coup, ça s'est détendu. Et le deuxième jour, ça allait mieux, déjà parce qu'on lui a un petit peu parlé. Et puis aussi, en fait, la chance que j'avais, c'est que mon mec travaillait juste à côté, donc il passait entre midi et deux pour nous ramener à manger. Enfin, tu vois, donc c'était pas des longues journées sans elle. Mais non, je kiffais. En plus, il repassait Sex and the City à ce moment-là. Donc, du coup, je me calais devant Sex and the City à 14h jusqu'à 17h avec le bébé au nichon ou sur le Cocoona Baby. Et enfin, en fait, ça, et puis le matin, de toute façon, en tout cas, moi, je restais un peu au lit, je glandouillais, et puis j'admirais ma merveille, et puis je parlais un peu à mes copines sur Insta, sur WhatsApp, and so on. Et en plus, au début, assez vite, je suis allée déjeuner avec des copines, enfin, je me suis assez vite mis en mode. J'ai assez vite bougé, en plus, j'ai accouché début octobre en 2018, il faisait un temps de ouf. Enfin, il faisait 25 degrés jusqu'à mi-novembre, donc c'était très facile de sortir, il n'y avait pas besoin de lui mettre 3000 couches. C'était assez smooth pour le début, ouais.
Ouais, du coup, t'as bien kiffé ton début, c'est tant mieux, hein. Franchement, c'est cool quand ça se passe comme ça.
Franchement, ouais, carrément, non, moi j'ai tout aimé, à part la montée de lait, là, mais... <Ouais. rire> Mais sinon, j'ai tout aimé. En plus, comme j'ai pas eu un accouchement très dur, j'avais pas de problème... Après, tu vois, de cicatrices de césarienne ou d'épisio. Enfin, franchement, j'étais en forme, quoi. J'étais vraiment en forme parce qu'il avait duré longtemps, mais c'était assez agréable. Enfin, c'était pas désagréable, donc non, j'étais bien, quoi. J'étais vraiment bien.
Nickel. Et est-ce que vous, le fait d'avoir des enfants, enfin, que lui ait déjà des enfants, vous aviez parlé éducation avant, le mode d'éducation que vous vouliez avoir, etc. J'imagine que c'est des discussions que vous aviez déjà eues.
On en avait déjà eu, puis j'avais déjà vu. Donc je savais un peu où il en était. On n'est pas forcément super d'accord non plus. En fait, le fait qu'il ait des enfants, moi, m'a obligée, et vu comment il les élève avec leur maman, moi, m'a obligée à revoir mes attentes, en fait. Parce que moi, je suis très, comme je te disais, maternage proximal, très... Montessori-ish, optimiser l'enfant. J'avais très envie qu'il n'y ait pas d'écran à la maison jusqu'à ses 25 ans. Enfin, voilà, moi, j'avais plein, j'avais plein d'envie, sauf que Roland regarde la télé beaucoup. Il adore ça. Il bosse dans l'image, donc il adore voir des beaux films avec du son. Joseph est un fou de jeux vidéo. Et Carla a 15 ans, donc...
Oui, voilà. Donc elle est devant les écrans tout le temps.
Voilà, et puis moi aussi, je suis vraiment... moi, je suis beaucoup sur mon tel aussi, je parle tout le temps à mes copines sur WhatsApp, donc je suis loin d'être parfaite non plus. Mais du coup, voilà, ça, je savais que je devrais faire un deuil là-dessus, donc ça, c'était dur. Donc moi, je suis très, comme je disais, je suis très sur... J'essaye de parler, tu sais, en positif, pas dire ne pas faire, mais plutôt fait. Enfin, tu vois, genre, pas oui. Ne tape pas, mais plutôt caresse. Enfin, tu vois, j'essaye de faire attention à ça. Mais parce que j'essaye d'être rigoureuse dans ce que je dis en général, et a fortiori à mon tout petit. Et lui, il a moins cette culture-là. Parce qu'il a moins cette culture-là d'avant. Enfin, déjà, en général, quand il parle en général, mais donc a fortiori quand il parle à un bébé. Et donc, ça, du coup, ça a été un peu dur pour moi. Alors après, j'ai appris que c'est par l'exemple qu'on apprend. Ça marche pour les bébés, mais aussi pour son mec.
D'accord.
donc, du coup, effectivement, donc finalement, j'essaye de faire ce en quoi je crois le maximum, même si je rate, bien sûr, souvent. Et mine de rien, je me rends compte que petit à petit, bah, Roland le fait aussi, plus ou moins, pas malgré lui, mais en fait, parce qu'en fait, on s'imite tous les uns les autres et on se mime tous, quoi. Et donc, ça va, mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué parce que tu vois, enfin, par exemple, moi, je crois pas du tout aux caprices et au concept de caprice.
Ouais.
Parfois, Joseph ou Carla, quand Angèle, qui a 2 ans et des brouettes, va... Donc, et au moment où, en tout cas, ses émotions sont un petit peu fortes, ils vont dire, arrête de faire un caprice. Et moi... Là, j'ai envie de dire non, c'est pas ce qui se passe. Et à la fois, voilà, c'est son frère, c'est sa sœur, c'est son père, et c'est comme ça qu'il voit les choses. Et je peux pas, je fais de mon mieux à moi. C'est déjà pas mal. Et voilà, mais c'est vrai que parfois c'est ultra frustrant.
Ouais, c'est difficile la différence d'éducation comme ça dans les familles.
Bah ouais, et puis surtout comme c'est une semaine sur deux, enfin tu sais, tu as beau instituer, mettre des trucs en place. Déjà, c'est dur d'être d'accord avec son mec, je trouve.
Non, oui.
Je trouve que c'est déjà dur. D'être d'accord avec l'ex de ton mec, c'est super dur.
Ouais. Ça rajoute une couche.
Voilà. Et surtout quand tu ne parles pas vraiment de ça, éducation. Et puis en plus, tu vois, enfin, le gros effet chez eux, tu ne vas pas non plus faire toc, toc, toc. J'aimerais bien que tu défasses tout parce que ça m'arrangerait. Donc effectivement, on s'adapte tous les uns aux autres. Mais c'est vrai que c'est un petit deuil. C'est vraiment un petit deuil pour le coup.
Ça rajoute une composante à la famille, ouais, qui n'est pas toujours simple à gérer, effectivement.
Ouais, ouais, et puis c'est... Enfin, là, je t'en parle détendu, mais il y a des moments où je l'étais moins. Enfin, hein, tu vois,
ouais, je vais bien croire.
Mais j'ai accepté, en fait, et c'est aussi ça le truc charmé avec... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu besoin de ça pour l'apprendre. Enfin, je trouve qu'un enfant, ça t'apprend aussi le lâcher prise. Et pour le coup, voilà, j'apprends aussi à lâcher prise là-dessus, sur mes principes, sur le pas d'écran, sur le... je voudrais qu'elle grandisse dans une société bienveillante où tout le monde lui parle gentiment parce que c'est comme ça qu'on devrait se parler dans la vraie vie. Enfin, j'ai compris que c'était pas complètement possible. Et puis en plus, enfin, je te dis, moi, j'ai entre 18 et 23 ans d'écart avec mes frères et sœurs. Donc, je découvre complètement le principe de fratrie, de ce que ça peut avoir d'intense comme rapport.
Mm-hmm.
Et c'est des choses que je comprends pas du tout. En plus, il se trouve que mes deux sœurs et mon frère s'entendent super bien. Donc, j'ai jamais vu ça, alors que c'est vrai que... Bah, en fait, je pense que c'est assez peu classique, en fait, que des frères et sœurs s'entendent aussi bien que mes sœurs et mon frère. Mais pour moi, c'était ça qui était normal. Et je me rends compte qu'en fait, oui, les frères et les sœurs, ça gueule, ça se tape, ça se réconcilie. Et à la fois, ils supportent pas quand on engueule l'un des leurs, ou parfois, ils en profitent pour faire l'enfant le plus mignon. Et ça, c'est des trucs que je découvre complètement. Et je suis genre, mais pourquoi ? Quelle perte d'énergie ! Et ça c'est une vraie découverte pour le coup, la fratrie, ouais, c'est une vraie découverte que je comprends pas toujours, mais pourquoi pas.
Et quand c'est comme ça, quand t'as des questionnements, est-ce qu'il y a des supports vers lesquels tu te tournes, ou est-ce que tu te fies à ton instinct? Est-ce qu'il y a des supports d'informations que tu regardes en particulier?
Alors, j'essaie de me faire confiance, mais aussi, alors moi, ma source d'information, si on peut parler information, c'est vachement Instagram, en fait. Assez vite, j'ai suivi plutôt des mères que des pères, parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça, à mon sens, enfin, je crois.
Il y en a de plus en plus, mais effectivement, il y a quand même beaucoup plus de comptes de mamans.
Ouais, c'est ça. Donc, je suis des mamans avec qui j'ai des affinités sur, justement, ces principes de base, et qui, mine de rien, me nourrissent, tu sais, de manière un peu instillée, quoi, un petit peu tout le temps, et qui me confirment et me confortent quand j'en ai besoin sur des choix. Parfois, j'ai pu lire des bouquins au tout début de ma grossesse et au tout début de la vie d'Angèle, des bouquins sur le sommeil parce qu'elle ne dort pas.
Ouais.
Et alors, finalement, je me suis rendu compte que personne n'avait de réponse, donc j'ai laissé tomber. J'avais lu des trucs... Alors, j'ai la chance, j'ai une super collègue qui lit tout pour moi et qui me fait un peu des fiches de lecture ensuite. Tout Filiola, Gegen et Enco. Donc, c'est trop cool. Je me nourris aussi pas mal de podcasts. Donc, ça peut être La Matrescence. Du coup, ça va devenir toi aussi. Ça peut être... J'ai écouté quelques Bliss Stories, mais c'est pas trop sur la parentalité, donc pas trop là-dessus. Et aussi, de temps en temps, j'hésite pas, quand j'ai une petite question ou quoi, j'en parle avec mon mec, bien sûr, mais après, on n'est pas forcément... C'est un peu compliqué, parfois, de parler de ce qui est compliqué dans la fratrie, parce que pour lui, c'est normal qu'il se tire la bourre, alors que pour moi, c'est une perte d'énergie pour tout le monde. Et donc parfois je me fais aider aussi par un thérapeute pour essayer de comprendre et puis aussi comprendre pourquoi ça m'affecte autant alors qu'en soi c'est comme ça quoi. Enfin c'est leur ils fonctionnent comme ça et c'est pas moi qui vais changer leur fonctionnement intrinsèquement. Donc parfois je me fais aider plus pour mieux supporter comment ça se passe et le rapport, pourquoi ça provoque des choses chez moi, de la tristesse ou de la colère, ou pourquoi j'ai besoin d'intervenir alors que, en fait, finalement, assez souvent, les conflits se règlent tout seuls. Enfin, tout seul, sans moi, en tout cas. Sans leur père aussi. Mais la lecture, j'ai pas le temps. J'aimerais faire. Ouais. Et c'est vrai que le temps que j'ai, je préfère lire des romans maintenant.
Oui.
Mais en revanche, je suis assez preneuse. Là, c'est plus possible à cause du Covid, mais je sais que je m'étais dit que j'allais assister à des conférences. Je sais que Filiosa, elle fait des conférences sur les fratries, sur l'éducation bienveillante, des choses comme ça. Donc ça, j'aimerais bien le faire parce que je trouve ça plus vivant et ça me correspond mieux, je pense, à ma manière d'apprendre.
Et sur les comptes Instagram dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un ou deux en particulier que tu aimes particulièrement ?
Alors, j'aime bien regarder le compte d'une maman qui a 3 enfants, qui fait l'école à la maison, qui s'appelle S'éveiller simplement. Même si elle me fout vachement de complexe. Enfin, non, c'est pas vrai, mais même si tu me... Non, en plus, je compare pas trop les enfants, mais c'est vrai que c'est super drôle de voir... Elle a un fils qui a peut-être 2-3 mois de moins qu'Angèle. Et le mec, il fait déjà des poiriers. Non, mais je déconne, mais il est genre génial, quoi. Mais c'est genre, il fait des trucs de ouf. Enfin, je trouve, il fait des trucs de ouf pour son âge. Mais en fait, ça donne vachement d'idées d'activités que j'applique pas du tout. Mais je trouve ça bien quand même de le savoir en cas d'urgence.
Très bien.
Et je sais que je regardais beaucoup quand Angèle était plus petite, Little Bun Bao, parce qu'elle fait de la langue des signes pour les kids, pour les petits, pour les bébés.
Oui.
Et on en a fait pas mal avec Angèle. Du coup, c'était cool d'avoir ça. Et puis elle est aussi à Donf, maternage proximal.
Elle est géniale.
Ouais, elle est vraiment cool. Elle est vraiment impressionnante. Ouais. Elle est vraiment super chouette.
Ok. Alors, pour finir, j'ai 2 questions.
Ouais.
La première, c'est quelle est la plus grande joie que tu as ressentie depuis que tu es maman ?
Ok.
Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a marqué ? Ou un truc au quotidien où tous les jours tu te dis « Ah, mais ça, c'est vraiment génial ».
Franchement, moi, j'ai rien acheté dans la maternité. Je trouve que tout est chambé. Après, je trouve que ma fille me fait hurler. Enfin, il y a plusieurs choses. Oh là là, c'est dur de choisir un. Alors, je vais en prendre 2. Elle me fait des câlins. Elle fait des câlins et des déclarations d'amour extraordinaires. Et ça, c'est le truc le plus... waouh du monde. Et elle danse comme une déesse. Enfin, elle danse beaucoup et ça me fait... Elle danse et elle chante tout le temps et ça me fait énormément rire. Et j'adore qu'elle me fasse rire, en fait. Je trouve ça génial que ce soit déjà un être humain avec une personnalité et qui, en plus, soit... qu'elle soit rigolote, je suis ravie, quoi. J'aime l'humour. Ça me fait vraiment plaisir.
Ok. Et la deuxième question, c'est si tu devais prévenir les futurs parents qui ne sont pas préparés sur le postpartum, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Que ça passe.
Accrochez-vous, ça passe.
Mais oui, mais en fait, comme tout, quand c'est génial ou quand c'est moins génial, enfin, c'est il y a une fin en fait. Mais c'est vrai que c'est le plus dur de pas savoir quand il y a une fin. Mais en fait, tout passe et il faut pas hésiter à se faire accompagner. En tout cas, le silence n'est pas d'or, pas du tout. Ouais. Il faut pas hésiter à parler, à se faire aider. Enfin, parce que ouais, d'expérience, je sais que certaines de mes potes qui l'ont vécu n'en ont pas forcément parlé, et du coup, c'est con. Enfin, c'est pas con, genre bête, mais c'est dommage parce que je pense que c'est en parler, l'assumer, c'est aussi une manière d'aider, enfin, d'aller vite vers le mieux, quoi.
Ouais, de s'aider et d'aider sa famille, quoi.
Ouais, exactement. En tout cas, il y a pas, c'est enfin, il y a pas de honte, et mais je crois savoir que c'est dur. C'est dur de l'assumer, mais ouais. Donc, en tout cas, ça passe. Ça, c'est sûr que ça passe.
Ouais. Quoi qu'il arrive, tout finit par arriver.
Bah oui, parce qu'en plus, c'est hyper conjoncturel. C'est lié à l'arrivée de ce nouvel être. C'est lié aux hormones. Enfin, plein de trucs qui vont se réguler de toute manière, en fait. De fait. Donc, patience est mère de toutes les vertus. Même si ça c'est dur.
Ok. Bah écoute, je trouve que c'est une belle conclusion. On peut finir là-dessus.
Bah si ça te va, ça me va.
Bon, bah super. Merci beaucoup.
Bah de rien, merci à toi pour toutes ces questions.
Cet épisode touche à sa fin. Encore un très grand merci à Émilie de s'être confiée sur sa maternité. Dans son super podcast, Émilie donne la parole aux belles-mères sans tabou sur cette configuration familiale un peu moins classique et pourtant de plus en plus courante. Vous pouvez retrouver le podcast d'Émilie sur les mêmes plateformes d'écoute que ce podcast Parents Informés. N'hésitez pas à aller y jeter un œil ou plutôt une oreille. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.